Ce matin, on va traiter ensemble du thème de la joie. On va parler ensemble de la joie, on va essayer d'aborder ce thème tous ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse partager ce grand, énorme thème qui est dans la joie. Savez-vous que dans la Bible, on retrouve plus de 280 fois l'occurrence du mot « joie » Savez-vous qu'on trouve une soixantaine de fois « réjouissez » ou « réjouis » On trouve une trentaine de fois le mot « joyeux » ou « joyeuse ». On trouve plus de 140 fois « heureux » ou « heureuse ». Alors si on trouve autant de choses comme ça dans la parole de Dieu, c'est que premièrement, la joie, elle existe. Deuxièmement, la joie, Dieu l'approuve. Et troisièmement, elle est accessible. Elle existe, Dieu l'approuve et elle est accessible. Et je pense que dans le nombre de fois dont je vous ai parlé, j'ai peut-être pas vu tous les mots qui font référence à la joie. Et on sait que dans cette période de Noël, la joie, elle est censée être partout. Mais on va voir dans un premier temps, dans cette matinée, que la joie est pour certains, Noël est pour certains une source de joie, mais Noël est pour d'autres pas forcément une source de joie. On va voir dans un deuxième temps que, en réalité, notre joie ne doit pas dépendre de Noël et des circonstances, mais de notre identité en Christ. Et on verra, enfin, dans un troisième temps, comment entretenir la joie de Noël, comment prendre soin de cette joie qu'il y a au fond de nous. Alors, vous êtes avec moi? On y va, c'est parti? Dans un premier temps, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est Noël, c'est la joie, mais pas forcément pour tout le monde. C'est la diapo suivante, si tu peux la mettre. Noël, c'est la joie, mais pas forcément pour tout le monde. Permettez-moi de commencer par cette réalité. Noël, c'est un moment où certaines querelles semblent s'apaiser, où on revoit certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est un moment où on peut profiter de manger différemment, apprécier ce qui est bon. Et j'aimerais tout de suite mettre les choses au clair. Ce n'est pas un péché de fêter Noël. Vous êtes d'accord avec ça? On a le droit de fêter Noël. Noël, c'est sûr que beaucoup en ont tourné dans une fête commerciale, mais le fait de partager ensemble, le fait de se réjouir, le fait de manger ensemble, c'est profondément biblique. Jésus aimait se réjouir avec ses disciples. Il était souvent autour des repas et des grandes discussions sont nées autour des repas. Jésus était là et passait du temps et se réjouissait. Jésus était dans la joie. Il a eu des moments difficiles, mais il a eu des moments où il était dans la joie quand il était avec ses amis, avec ses disciples. Alors, que penser des traditions, les cadeaux? Je crois que Anne nous a dit dans son premier message qu'un cadeau, c'est aussi profondément biblique. Parce que Jésus nous a offert le plus beau et le plus merveilleux de tous les cadeaux quand il s'est donné pour nous. Amen. Alors, le premier point que je veux garder, qu'on peut garder en tête, c'est que oui, Noël est un moment où on a le droit de se réunir les uns avec les autres. Je ne vais pas vous parler du sapin, Et encore, si on cherchait bien, je crois qu'on verrait pas mal de traditions protestantes dans les traditions qu'on a régulièrement. Alors oui, on a le droit de fêter Noël. Et c'est quand même quelque chose qui est bon, qui est encourageant. Mais j'aimerais simplement vous partager que pour certains, si pour certains ça représente le fait d'être tous ensemble et de se réjouir, pour d'autres, Noël a un petit goût d'amertume, un petit goût de tristesse. Noël, c'est pas toujours la joie. Noël peut rappeler la solitude. Noël peut nous dire, mais oui, tout le monde se réjouit, mais moi j'ai perdu mon enfant. Noël peut toucher les cœurs. Noël, ce n'est pas forcément toujours quelque chose qui apporte de la joie. J'aimerais vous montrer une petite vidéo, si vous le voulez bien, et puis après on en discute ensemble.
Et si on préparait Noël ensemble?
Ok. Comme vous l'avez pu remarquer, j'aime bien cette pub. Vous savez pourquoi j'aime bien cette pub? Parce qu'en réalité, elle représente un peu les fêtes de Noël. Bon, on l'invite le tonton ou on l'invite pas le tonton? Alors, si on assoit tonton à côté de l'autre tata qui râle tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, Noël, c'est aussi le moment où il faut faire attention parce que si tu manges trop, t'es malade, mais si tu manges pas assez, on va te dire que tu manges pas assez. Noël, c'est le moment où il y a des tensions dans les foyers. Alors là, je l'ai mis de manière humoristique, mais c'est des moments où il peut y avoir des tensions dans les foyers. Et alors qu'on se dit, oui, ben Noël, c'est un moment où on se réjouit tous, mais on va quand même pas inviter celui-là, on sait jamais qu'il nous pourrisse pas l'ambiance. La réalité, c'est que Noël, pour certains, représente parfois la difficulté de se réunir les uns avec les autres. Noël peut arriver jusqu'à provoquer de l'amertume. Alors que tout le monde se réjouit, toi tu penses à ce que représentait Noël avant et ce que tu as perdu. Noël soulève souvent des dossiers qu'on avait enfouis et qui, une fois par an, reviennent à la surface avec un peu de poussière et qui peuvent vite gâcher la fête. Et à bien un moment, naît dans notre cœur cette frustration de Noël. Plus vite c'est passé, mieux c'est. Et vous savez, je crois qu'il existe un vrai voleur de joie. Il n'a pour but que pour nous enfoncer dans notre vie et qu'on n'expérimente pas la vraie joie de Noël. Peut-être parce que la réalité, c'est que le sens qu'on a donné à Noël n'est pas forcément celui dans lequel sur lequel on devrait s'appuyer. Notre joie dépend davantage de ce que Noël a représenté en termes de relation, mais pas réellement ce que la Bible nous donne par rapport à cette naissance. Alors, j'aimerais vous lancer un défi. Ce matin, dans l'assemblée, il y a les deux. Il y a les gens pour qui Noël, c'est un sujet de joie. Un sujet extraordinaire, un sujet on va se réjouir. Et puis il y en a pour qui Noël, c'est un moment de tristesse. Et vivement que ce soit passé. Et j'aimerais qu'on sorte tous avec cette même opportunité de comprendre que Noël, c'est la joie à cause de Jésus-Christ. Amen. Pas à cause des circonstances, mais à cause de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt à dire ce matin, je voudrais que Noël redevienne pour moi vraiment un sujet de joie et non de tristesse. T'es marrant, tu vas rétablir les relations? Pas moi. Peut-être que Dieu est capable de le faire. J'aimerais qu'on puisse considérer que ce matin, Noël n'est pas une question de relation avec un S, mais d'une relation. Et qu'on puisse saisir que Noël représente la renaissance d'une relation avec celui qui est l'auteur de la vie, de la naissance et de l'arrivée de Jésus sur la terre. J'aimerais vous dire et j'aimerais vous encourager à vous dire qu'il y a de la joie possible, même quand les circonstances sont défavorables. J'aimerais vous encourager et vous dire que... Ok ? D'accord. C'était pour voir si vous étiez avec moi et si vous suiviez encore avec moi. J'aimerais vous dire que Noël peut être la joie même quand ta joie a disparu. J'aimerais te parler de celui qui t'apporte la vraie joie. Son nom est... Amen. Il y a quelques personnes à gauche qui sont OK avec ça. Celui qui t'apporte la vraie joie, son nom est... Amen. C'est lui qui va nous apporter la joie. Et notre joie n'est pas dans les circonstances, n'est pas dans le fait de bien manger, même si c'est pas mauvais. Mais notre joie se situe dans ce que Christ a fait pour toi et pour moi, dans ton identité. Joyce Meyer a dit, c'est la diapo suivante s'il te plaît, la joie ne provient pas des circonstances paisibles ou contrôlées, mais de ce qu'il y a dans votre cœur. Alors permettez-moi de vous reparler de l'arrivée de Jésus. Parce qu'on pense souvent qu'effectivement, il y a eu un moment où Marie, elle était en difficulté. Elle se retrouve, elle arrive près d'une étable et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et alors qu'elle est dans cette étable, ça semble être un moment difficile, un moment où elle va souffrir. Et c'est vrai que le contexte est défavorable. Mais j'aimerais vous parler du contexte élargi. Pour comprendre que l'arrivée de Jésus est bien un moment de joie et non un moment de tristesse. J'aimerais vous parler des mages qui, au moment où ils vont apprendre que Jésus arrive sur la terre, vont être remplis de joie. J'aimerais vous parler de l'Ancien Testament qui annonce que l'arrivée de Jésus amènera des transports d'allégresse. J'aimerais vous parler de Marie qui, alors qu'elle va rencontrer Élisabeth, sa cousine, les enfants, ça va tressaillir dans son sein. Il va se passer quelque chose. Dans le cœur, dans le corps de Marie, va se passer quelque chose. La joie de l'arrivée de Jésus est une joie réelle. Ça va changer le cours de l'humanité. On parle souvent d'événements, on se dit « Ah ça, ça a changé ». La Deuxième Guerre mondiale, ça a changé le visage de la Terre. Telle chose, ça a changé le visage de la Terre. Mais j'aimerais vous dire qu'une chose qui a changé le visage de la Terre, c'est l'arrivée de Jésus sur Terre. C'est la naissance de ce petit bout de chou qui va changer ton avenir, ton présent, ton passé, mon passé. C'est l'arrivée de Jésus et cette arrivée s'est faite dans la joie. Il y avait une telle attente du peuple d'Israël de voir enfin venir le Messie. Il y avait une telle impatience de découvrir ce qui arrivait. Ça fait 400 ans qu'on n'a pas de nouvelles. Où est-il? Et là, alors que tout le monde l'attend, il arrive. Alors, il n'arrive pas en gloire, il n'arrive pas sur un grand cheval et que tout le monde le voit. Il va arriver comme un bébé, simple, à la naissance. Alors qu'il est rejeté il arrive là, dans cette étable. Mais j'aimerais vous dire que le contexte qui entoure l'arrivée de Jésus est un contexte de joie, est un contexte de paix, est un contexte d'amour. Et ça nous permet aujourd'hui, de vous et moi, de nous tenir ici, parce qu'un jour, Dieu a choisi d'envoyer Jésus sur la terre. Et je crois que cette joie que le peuple d'Israël a pu découvrir au moment de l'arrivée de Jésus, c'est une joie que nous pouvons vivre au quotidien. Alors vous allez me dire peut-être, oui mais attends, quand même, Jésus n'est pas arrivé le 25 décembre. Et c'est vrai, Jésus n'est pas arrivé le 25 décembre. Mais j'aimerais vous dire qu'en réalité, si Noël me permet chaque année de me remémorer la naissance de Jésus, alors je veux bien faire Noël tous les jours. Ça va ? Ça vous va ? Et j'aimerais qu'on puisse saisir ensemble que le contexte dans lequel arrive Jésus, c'est un contexte de joie, c'est pas un contexte de tristesse. Parce que Jésus est venu apporter ici du réconfort, de l'encouragement. Jésus est venu dans ta vie pour te rencontrer et te dire « il y a de la joie quand tu connais Jésus ». Il y a de la joie quand tu vis la vie avec Jésus. Et c'est pour ça qu'il est arrivé dans un contexte d'attente et que les gens ont pu dire « mais oui, il est là, présent, maintenant il est là, il se passe quelque chose ». Et j'aimerais qu'on pousse un peu plus loin la réflexion. Encore plus loin dans l'impact de la naissance sur notre vie. Permettez-moi de souligner un passage avec vous. Alors que Jésus va être baptisé, est-ce que tout le monde connaît le passage du baptême de Jésus ? Ok, Dieu va dire quelque chose à ce moment-là. Il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce texte reprend un texte d'Ésaïe 42 qui nous dit, voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi. Et la version d'Ésaïe, comme la version de Matthieu, dans la version Semeur, nous dit, qui fait toute ma joie. Je trouve mon plaisir, mon affection, ma joie en Jésus-Christ. Dieu trouve de la joie dans son Fils. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Au moment de la transfiguration, Dieu va dire, pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, celui en qui j'ai mis mon affection. » À trois reprises, Dieu va parler de l'affection qu'il a pour son fils, de la joie que provoque son fils. Mais j'aimerais vous dire, vous poser une question. Est-ce que Dieu dit, il fait toute ma joie ou toute mon affection parce qu'il va sauver le monde, parce qu'il va faire des miracles ? Est-ce que Dieu est en train de dire, voici le sauveur du monde, celui qui va faire des miracles et guérir des malades, il fait toute ma joie ? Est-ce qu'il va dire, voici mon fils bien-aimé, celui qui va sauver, qui va marcher sur l'eau, et pour cela il fait toute ma joie ? Est-ce qu'il va dire, voici mon fils, car parce qu'il est arrivé, ben, la terre entière va être changée, et à cause de tout ce qu'il va faire, il va provoquer ma joie ? La seule chose que Dieu dit à ce moment-là, c'est, voici mon fils bien-aimé. Ce qui provoque la joie de Dieu, c'est la relation de filiation qu'il y a entre le Père et le Fils. Ce qui provoque la joie, l'approbation de Dieu, c'est la relation entre le Père et le Fils. De la même façon, frères et sœurs, ce qui provoque la joie de Dieu vis-à-vis de toi, c'est la relation de Père à Fils. C'est la façon dont il te considère. Tu es enfant de Dieu. À tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et à cause de cette relation père-fils, Dieu est capable et Dieu veut te donner sa joie. Ce qui fait la différence dans ta vie n'a rien à voir avec ce que tu vas faire ou ne pas faire. Mais l'approbation de Dieu dépend de cette relation de filiation, du fait qu'il a fait de toi son fils et sa fille. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, tu ne peux même pas l'imaginer à quel point. Je vois, moi j'ai 3 enfants. Et je réfléchis et je me dis, si quelqu'un touche à mon enfant, si quelqu'un touche à mon fils, je ne sais pas comment vous réagiriez, mais c'est le genre de truc qui peut me mettre hors de moi. Tellement j'ai d'affection, tellement j'ai... C'est mon fils, quoi, tu ne touches pas. Il y a des papas dans la salle, là ? Il y a des mamans dans la salle, parce qu'il y a des mamans, elles sont pires que les papas, des fois. Alors imagine-toi ce que toi tu peux vivre vis-à-vis de ton fils, ou même vis-à-vis d'une personne proche, ton épouse, vis-à-vis d'un frère. Imagine-toi ce que Dieu peut ressentir quand tu passes par la souffrance. Crois-tu que Dieu est en train de se dire « Bon, bah, qu'il galère, ça va lui faire du bien, ça va lui apprendre la vie. » La réalité, c'est que l'amour que Dieu te porte est tellement fort que ça ne peut même pas être comparé à l'amour que moi j'ai pour mon fils. Elle va encore plus loin. Et à cause de cet amour, Dieu va déverser son esprit en nous afin qu'il nous rappelle chaque jour que nous sommes fils et filles du roi des rois. On peut lire ensemble ce texte qui se trouve dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, que nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Comment je relis ça à la joie ? Si Dieu est un Dieu de joie, qu'il a mis sa joie dans son Fils, de la même façon, le Dieu de joie, le Dieu qui se réjouit de ta présence, de que tu existes, le Dieu qui t'a créé, qui a de la joie de te voir ici ce matin, ne va-t-il pas déverser sa joie dans ton cœur ? N'est-il pas capable de dire « Tu fais ma joie ?» Est-ce que tu peux regarder ton voisin un instant et lui dire « Tu fais la joie de Dieu ?» Eh oui ? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu fais la joie de Dieu. La joie est intimement liée à notre identité de fils et de fille de Dieu. Et je vais aller plus loin. C'est vrai que les circonstances peuvent être défavorables. C'est vrai qu'il peut y avoir un ensemble de facteurs compliqués, je l'entends. Et on y est passé, on le vit. Quand mon épouse a perdu son papa en août 2017, je peux vous dire que le Noël a eu une toute autre saveur. Parce que Noël, sans une personne qui est là comme le centre de la famille, c'est compliqué à vivre. Mais ce qui nous a rassurés, c'est que, un, de savoir qu'il est parti au bon endroit et qu'il se réjouit tous les jours, il est en train de faire la fête. Lui, pour lui, c'est Noël tous les jours. Mais aussi de savoir que nous sommes, nous, dans cette famille, unis parce que nous sommes fils et filles du roi des rois. Et que notre joie, malgré les circonstances défavorables, dépend non de la circonstance, mais bien du principe de filiation qu'il existe entre Dieu et moi. J'aimerais te dire que tu es fils et fille du roi des rois. Alors, si on réfléchit comme ça, peut-être qu'un instant, on peut se poser la question sur le fait que peut-être la joie de Noël, en réalité, prend un tout autre sens. Si tu considères que parce que Jésus est venu sur la terre, il s'est fait homme, il s'est incarné, puis qu'il a marché sur la terre, et puis qu'il a donné sa vie et qu'il est ressuscité. Si tu considères ces choses-là, tu considères que l'élément qui a fait que Noël devienne cette célébration de la naissance de Jésus est l'élément capital de ta vie spirituelle. C'est le point de départ. C'est parce que Jésus est venu qu'il a pu déverser sa joie en nous. Alors peut-être quelques textes qu'on va pouvoir vivre différemment. Regardez, ce texte nous dit dans un des psaumes, « Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie parce que tu as vu ma misère et tu as porté attention à ma grande détresse. » Un autre texte, « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Juste, je fais une petite pause. Ça vous arrive d'avoir l'impression parfois qu'on n'est pas comblé de ses bienfaits ? Où il n'y a que moi. Où on doute peut-être des bienfaits de Dieu. Mais tu sais, le plus grand bienfait que Dieu t'a fait, c'est d'avoir envoyé Jésus pour que ton salut soit acquis de manière claire, nette et précise. Pour que tu puisses avoir accès, par la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, tu puisses avoir accès au trône de la gloire. Ce texte-là, écoutez bien, nous dit le texte suivant, « Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. » Mais regardez, c'est extraordinaire. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. En réalité, simplement, ce que la Bible est en train de faire, c'est nous changer de lunettes spirituelles et nous dire, OK, vous savez que j'aime bien les images, mais prenez les lunettes de Dieu et commencez à lire chaque moment de votre vie, chaque événement à travers les lunettes de votre Dieu. Et vous découvrirez que la joie ne dépend pas des circonstances, mais du fait d'appartenir au roi des rois. Amen. La joie, elle est intérieure. Et parfois, elle s'exprime de manière extérieure et parfois non. Noël, c'est le point de départ de notre nouvelle identité en Jésus. Et seule cette vérité te rendra la joie que tu as perdue. Jésus t'aime, te connaît. Le Père t'aime, te connaît. Tu es son enfant et il souhaite que tu te réjouisses de cette relation. Bruno Picard a dit cette semaine, « Demeurer dans sa joie, ce n'est pas faire comme si tout allait toujours bien, parce qu'en effet, tout va de travers. Manifester la joie divine, c'est comprendre que Dieu peut utiliser vos circonstances imparfaites pour accomplir sa volonté parfaite dans votre vie. » Je vous le relis. Manifester la joie divine, c'est comprendre que Dieu peut utiliser vos circonstances imparfaites pour accomplir sa volonté parfaite dans votre vie. Je veux vraiment vous ramener sur ce principe de filiation. Dieu t'aime, il a fait de toi son fils. À tous ceux qui croient, il a fait de lui, d'elle, son fils et ses filles. Et c'est ça qui peut nous remplir de joie. Alors, j'aimerais terminer avec cette troisième et dernière partie. Je crois que la vraie joie, celle qui dépend de notre relation à Dieu, elle s'entretient. Parce qu'il y a un voleur de joie qui vient souvent. Et ce voleur de joie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te déstabiliser, pour te provoquer, pour provoquer des problèmes, pour venir et te faire douter. Qu'est-ce que la plupart des personnages de la Bible sur lesquels on peut s'appuyer, qu'on puisse découvrir au niveau de leur histoire, l'ennemi va toujours venir sur leur vie pour remettre en cause l'identité qu'ils ont en Christ. Regardez, dès le début, Dieu a-t-il réellement dit ? C'est-à-dire qu'on commence à remettre en cause ce que Dieu est en train de dire sur la vie d'Adam et Ève. L'ennemi n'a qu'un seul but, c'est d'arriver à te faire croire qu'au fond, c'est un peu de ta faute. Regarde, tu vois ce type de phrase ? Tu vois, c'est toi qui as cassé toutes les relations. Comment tu veux que je crée à nouveau une relation ? Tu vois, ce Noël, tu es seul. Tu vois que Dieu t'a abandonné. Tu vois, tu râles tout le temps. Forcément, Dieu va te laisser tomber. Vous avez déjà entendu ce type de phrase ? Ce type de phrase qui vient te faire douter que Dieu t'aime vraiment ? Et en réalité, au lieu de t'approcher du Père qui va contrebalancer, qui va éteindre ses phrases par ses et remplacer par ses phrases à lui, on a plutôt tendance à s'isoler. Et là, Noël ne devient plus une source de joie, mais de tristesse et d'isolement. Et j'aimerais qu'on puisse revenir proche du roi des rois, proche de sa présence. Alors, j'aimerais vous illustrer mes propos de manière assez simple. Vous voyez cette bouteille ? Ouais ? Ça va ? Ok. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a déversé son esprit en nous. Il y a de l'eau là-dedans. D'accord ? Dieu a déversé son esprit en nous. Et ce que le diable essaye de faire, c'est d'écraser ta vie. Pour qu'en final, l'esprit qui est en nous, qui te rappelle que tu es enfant de Dieu, qui procure la joie, qui t'accompagne, pour que ça puisse partir. Alors ce qu'il fait, c'est qu'en réalité, il t'écrase. Hop, excusez-moi, j'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe quand ça commence à écraser ? Ça déborde. Oh, le micro. Excusez-moi, j'aurais dû mettre un petit peu plus à gauche. Alors, quelle est la solution ? Quelle est la solution pour protéger ? Quelle est la solution ? La seule solution pour qu'il ne puisse pas, c'est de refermer le bouchon. Et quand tu fermes le bouchon, tu peux écraser, d'accord ? Mais il n'y a rien qui sort. Comprenez bien que tu peux écraser, mais il n'y a rien qui sort. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quelle image je veux utiliser ? Même si j'écrase et je serre fort, il n'y a rien qui sort. La réalité, c'est que Dieu a mis sur notre tête un truc qu'on appelle le casque du salut. Et le casque du salut, qu'est-ce qu'il protège ? Ta tête et donc tes pensées. Si tu mets sur ta tête le casque du salut qui te rappelle que tu es enfant de Dieu, qui te rappelle qui tu es, l'ennemi va venir essayer d'écraser, il le fera. Mais il n'y a rien qui sortira. Parce que simplement, Dieu met sur ta tête, il t'équipe et tu dois le saisir que comme tu es enfant de Dieu, même si l'ennemi essaie de t'accuser sur le fait que tu n'es pas enfant ou te fait douter, Parce que tu portes le casque du salut, tu peux rappeler à l'ennemi que tu es enfant de Dieu, qu'il n'a rien à faire dans ta vie. La joie dépend en réalité du fait que tu es capable de prendre position et dire « Je sais à qui j'appartiens. J'appartiens au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Je suis enfant de Dieu. » Parce que nous savons à qui nous avons cru. Nous savons qui est. La joie, c'est quand tu mets sur ta tête le casque du salut. C'est quand tu dresses le casque du salut et que tu dis à l'ennemi « J'appartiens à mon Dieu. » Et c'est lui qui me procure la joie. Amen. Faire face à l'ennemi, c'est lui rappeler que ta joie ne dépend pas des circonstances, mais bien de la présence de Dieu. Mark Driscoll a dit, je ne sais pas si on peut avoir la citation, « La joie, ce n'est pas un déni de la réalité, c'est une reconnaissance que la présence de Dieu est une meilleure réalité. » On la relit ensemble. « La joie, ce n'est pas un déni de la réalité, c'est une reconnaissance que la présence de Dieu est une meilleure réalité. » Bien souvent, on dit, oui, mais tu vois, les chrétiens, eux, ils sont dans la joie, mais en fait, en réalité, c'est pour une façade. C'est pour faire style, pour faire comme si. Mais je crois que la joie que Dieu nous provoque, la joie que Dieu met dans notre cœur, n'est pas pour l'apparence, n'est pas pour faire, mais c'est une réelle joie qui est profonde de notre Père. La présence de Dieu devient alors une source de joie. Et je bénis Dieu que quand on s'approche de la présence de Dieu, on découvre simplement celui qui nous apporte la paix, la joie, l'amour et l'espérance. La Bible nous dit « J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Un autre texte nous dit « En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » Un autre texte nous dit « Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au son du corps, lui l'Éternel. » Dieu est un Dieu de joie. Dieu est un Dieu qui, dans sa nature, est profondément bienveillant. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu... croyez bien, si on réfléchit ensemble, vous pensez que Dieu est en train de déprimer là-haut au ciel? Est-ce que vous croyez qu'au moment où toi, tu te lèves et tu te lèves du pied gauche, Dieu est en train de dire « Ça y est, il faut que je me le tape toute la journée, ça va être long. » Est-ce que Dieu a cette mentalité que nous, on aurait? La réalité, c'est que le cœur de Dieu est un Dieu de joie. Il va tellement loin qu'il nous a dit « Cette joie, je veux que vous la viviez. » Et pour cela, il nous a donné son esprit. Et regardez, un des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est qu'il y a l'amour, la paix et la joie. Il veut qu'on la vive au quotidien. Et pour cela, il y a une épître dans la Bible qui est vraiment centrée sur la joie. Et là, je fais un petit clin d'œil à tous mes amis du cours Insté, qui sont quelque part un peu, mais à tous ceux qui font les cours Insté. L'épître aux Philippiens, dont le thème central, c'est la joie. Et là, Paul va dire un truc qui, moi, j'ai du mal à le vivre. Réjouissez-vous quand ça va bien ou à Noël. Non. Qu'est-ce que Paul va dire? Réjouissez-vous toujours. Et comme on ne l'a pas assez compris, il nous le répète. Je vous le répète. Réjouissez-vous toujours. Pause. Où est Paul à ce moment-là? Là, les gars d'Insté, vous avez intérêt à être au taquet. Hein. Paul, à ce moment-là, il est en prison. Il est en prison. Il n'est pas dans des circonstances favorables. Mais Paul a découvert comment se réjouir différemment. Paul a découvert qu'il se réjouit dans la présence de Dieu, qu'il se réjouit malgré les circonstances défavorables. Et il y a toute cette étude qui va nous amener à aller un peu plus loin sur la notion de la joie. Et je vous invite à lire le livre des Philippiens. Si vous ne savez pas quoi faire pendant Noël, faites une étude du livre des Philippiens. C'est très intéressant de voir tous les aspects de la joie dans lesquels Paul nous parle. Mais j'aimerais conclure avec ce texte. Parce que je vous disais que la joie, elle s'entretient en mettant le casque du salut, mais je crois aussi que la joie s'entretient par des choix qu'on doit faire. Alors on va lire ce texte ensemble. Faites tout. Vous êtes vraiment prêts à le lire avec moi, hein? Ouais, ok. Faites tout sans vous plaindre, même face à tonton, ok? Et sans discuter, pour être irréprochable et pur, des enfants... Tiens, on n'a pas parlé d'enfants de Dieu à un moment. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien et ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, regardez ce que Paul dit ici. Je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous, vous aussi de la même manière. Réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Amen. Alors on est prêt pour dire amen à la fin, est-ce qu'on est prêt pour dire amen au début du texte ? Alors, je sais que le contexte dans lequel on est actuellement n'est pas très propice à ce texte. Vous avez tous regardé les infos, c'est un peu compliqué. On entend. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas un choix de dire « Seigneur, je sais que les circonstances sont défavorables, mais est-ce que je ne veux pas choisir de briller dans ma famille par la joie que tu mets au fond de mon cœur ? Est-ce que je ne veux pas choisir un moment de prendre position et de dire « Seigneur, je me positionne et j'arrête de râler dès qu'il y a un truc qui ne va pas ?» Et je veux que la joie de Christ se manifeste et que les gens disent « Mais cette année, il est différent. Cette année, on dirait qu'il a découvert autre chose. Est-ce que ce n'est pas temps de se dire « Seigneur, je veux arrêter de me plaindre tout le temps » et prendre cette décision de dire « Seigneur, c'est ta joie qui fait ma force. » Parce qu'il y a bien un texte qui dit ça, n'est-ce pas ? La joie de l'Éternel sera ma force. Je conclue pour de vrai, je vais inviter l'équipe à me rejoindre. La joie, on l'a bien vu ensemble, ne dépend pas des circonstances. La joie dépend de notre filiation et du fait qu'on est fils et filles du roi des rois. Et peut-être que ce matin, tu es venu avec des doutes en te disant « Mais est-ce que moi vraiment je lui appartiens ?» Et si tu places ta foi en Jésus, si tu dis « Tu choisis de marcher et de te laisser conduire par Jésus », oui, tu es fils et fille du roi des rois. Et je crois que dans cette salle, il y a beaucoup de fils et filles du roi des rois parce qu'on est une seule et même famille. Mais il serait peut-être temps de dire « Seigneur, je vais accepter que je suis ton enfant. Et malgré mes circonstances défavorables, je vais accepter que tu sois le Père qui me soutienne. Je veux saisir que tu es le Père qui remplit mon cœur. Je veux saisir que même si des fois c'est défavorable, je veux saisir que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de découvrir ta joie. Et peut-être ça fait des années que tu l'as perdu cette joie. Dieu voudrait te dire, je suis à ta disposition pour te rendre cette joie. C'est pas évident tous les jours. Et on le vit comme vous. Mais je sais que Christ est ma joie. C'est lui qui fait ma joie au quotidien. Peut-être qu'il est temps de reprendre à l'ennemi ce qu'il nous a volé, notre joie. Et de saisir que Noël, oui, c'est la joie. On peut fermer les yeux ensemble, on peut prier ? Seigneur, je veux vraiment te prier ce matin pour chaque personne qui est venue dans ce lieu et pour qui peut-être Noël ne représente pas forcément la joie. Mais je veux te prier aussi pour chaque personne qui est venue là et pour qui Noël, c'est la joie. Mais qu'ensemble, on puisse s'unir à travers une pensée, une direction. C'est parce qu'on est fils et filles du roi des rois que Noël représente la joie. Seigneur, ce matin, que cette joie puisse demeurer dans nos cœurs. On puisse dire à l'ennemi, tu n'as pas accès à mes pensées. Parce que je mets sur ma tête ce casque du salut qui me protège. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux qui vont passer les fêtes peut-être seuls, qui puissent trouver, que tu puisses mettre devant leur chemin des personnes qui ouvriront des portes, où ils vont pouvoir vivre quelque chose ensemble. Je te prie que cette église, l'église de l'Épi, soit un lieu où la joie de Christ transparaît dans nos relations. Je te prie qu'ensemble, nous soyons des représentateurs, des représentants, des ambassadeurs de Christ dans ce qu'on veut vivre au quotidien. Seigneur, merci, parce que la joie de l'Éternel est ma force. Et ce matin, je ne m'appuie pas sur les circonstances, mais je veux m'appuyer sur toi et sur toi seul. Bénis, encourage, soutiens, relève celui qui est dans la tristesse et que la tristesse se change en joie à cause de ton nom. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.